Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de la troisième saison du Petit Paquet.
Ouais, troisième saison, on coupe ça en saison.
Oui, c'est le début de la troisième année, la troisième saison. François Côté accompagné de Stéphane Morneau. Chachou est pas là.
Mais oui, pas de Mathieu.
Mais on s'est trouvé un autre collaborateur pour cette semaine. Ouais. Bray Wyatt peut bien s'en venir avec les marionnettes tant qu'il voudra. Nous autres, on a Bourrasque.
Il est-tu pas beau, rien qu'un peu?
Puis là, ce qui me fait le plus de peine de l'absence de Mathieu aujourd'hui, c'est que là, je vais être obligé de t'écouter parler.
Ouais, tu pourras pas juste surfer sur les
interwebs. Parce que d'habitude, je vous lance, puis là, je check de quoi qu'on va jaser ensuite. Sauf que là, va falloir que je t'écoute. C'est gossant, ça.
Faire du contenu pour une fois.
Non, damn it.
Tu iras sur le dark web, comme dirait Kelly.
Ouais, non, je suis pas sûr que je veux aller parcourir le même dark web que Kelly. Ça, yes c'est.
Seigneur. Non, d'ailleurs, t'as passé beaucoup de temps avec le Kelly parce que c'était Raw SmackDown à Montréal.
Donc, oui. Ben, toi à Raw, moi à SmackDown. Gros week-end de lutte, c'est ça. Tu sais, Kelly,
pensez
ça exactement. On s'est partagé, Kelly. T'as eu droit à cassette aussi ouais. Lundi. Qui est tombé au combat, qui est pas venu mardi.
Petite baisse d'énergie qu'un nouveau bébé à la maison. Ben le cossette, oui, je l'ai perdu vers 9h30. Là. Il avait plus le même niveau. Il avait pas la même flamme dans l'œil.
Mais de toute façon, cossette, quand il est fatigué ou qu'il est malade, c'est là qu'il est le plus agréable. Parce que ça ramène son niveau d'énergie à un niveau comme endurable. Contrairement au reste du temps où là, il est comme Kelly, puis il danse, puis il chante.
Vous passerez une soirée avec Kelly et Cossette, vous allez tout comprendre. Il y a du chant, il y a du karaoké, des références louches à Paul Piché. Ça n'a jamais de fin.
Mais moi, j'ai été bright parce que je me suis mis un des petits gars à Kelly, Louis-Michel Lelièvre, nous deux, entre moi et Kelly. Donc, ça donnait un buffer qui était très agréable. C'était donc le Superstar Shake-Up, le International Superstar Shake-Up.
Qu'est-ce qui était international
à part d'être au Canada, là. Avant qu'on parle des noms en tant que tel, Stéphane, le concept depuis 2 ans, là, depuis qu'on s'est éloigné des GM, puis des échanges, puis des drafts, ça amène une situation où il y a comme pas d'enjeu.
Non.
C'est juste comme, ah, tout d'un coup, la musique de quelqu'un part, puis c'est comme, ah, t'es rendu à Raw.
C'est fascinant qu'ils ont réussi à ne pas récupérer une des seules affaires du sport professionnel qui pourrait juste prendre et dire « Hey, on fait une journée de draft. » La NFL le fait pendant 3 jours à la TV puis il y a du monde qui le regarde. Même chose au hockey. On regarde un boulier avec des balles puis on capote. Mais la WWE ont décidé de plus le faire. Ils l'avaient à l'époque, là, brasser des boules puis mettre un faux suspense. Ah ouais. Puis tel GM a le premier choix. Puis là, on est rendu dans une espèce de brassage où l'aspect de vente, c'est il va y avoir des surprises. Puis là, quand tu y assistes en direct ou tu le regardes en direct, puis qu'il n'y a pas tant de surprises, c'est difficile d'être vraiment investi parce que tu t'attendais à plus. On dirait que le fait d'en faire un shake-up, un gros happening, tu te dis « Ah, ça va être des émissions pivots, puis les choses vont changer à partir de là. »
C'était pas ça.
Puis écoute, à part 2-3 petites exceptions qu'on va parler, il n'y a rien là-dedans qui est world beater.
Puis une autre affaire aussi, c'est qu'on dirait quand tu passes ton année un peu à établir tout le monde comme étant un peu des mid-carter, tu sais, on n'a pas feeling qu'il y a des énormes vedettes. Tout le monde est juste comme au lieu d'avoir un range de là à là, tout le monde est comme écrasé ici. Puis là, ce que ça fait, c'est que OK, Andrade Switch, puis là tu vois des noms, puis c'est comme OK. Tu regardes quel adversaire potentiel, quel nouveau match-up ça peut faire, mais au-delà de ça, il n'y a pas de comme « Oh my God ». Peut-être qu'une fois que le move à Fox va être fait, puis que là, les deux shows vont être plus séparés dans la semaine, peut-être qu'on va avoir un feeling de deux shows différents plus important. Mais là, pour l'instant, c'est juste comme « Bon, tu fais juste me mélanger dans les 5 heures de lutte en 2 jours ». Qui est où, puis ça change pas grand-chose.
Ils se sont un peu tirés dans le pied aussi, parce que, là, quelques mois, quand les McMahon ont fait « on écoute les gens, plus de lutte, moins de GM et tout ça », ils ont commencé aussi à rendre la frontière pas mal plus perméable. T'avais Ricochet et Aleister Black, notamment, qui étaient des deux côtés.
Ouais, tous les nouveaux call-ups, là, depuis un mois, se promènent dans les deux brands.
Les championnes par équipe de SmackDown de féminine se promènent. Becky a 2 championnats, se promènent. Donc là, si tu regardes Raw et SmackDown de façon consécutive, t'as beaucoup de redites.
Ah ouais.
T'as exactement le même angle de Becky Lynch qui est roulé 2 fois. Même chose avec les Iconics. Lars Sullivan en doublé. T'es comme, OK, mais, tu sais, tu avais des éléments distinctifs à l'époque, même s'il y avait des défauts dans les deux shows.
Ben oui.
Là, j'ai quasiment 40% des deux soirées qui sont identiques, même que Becky rentre à SmackDown en disant « Ben, je vais me répéter un peu, mais je suis vraiment contente d'être là. » Ben ouais, t'étais là hier, t'as fait exactement la même chose.
Puis sur place, sans les commentaires TV, t'es jamais sûr à 100%, OK, es-tu juste là pour asseoir ou il a switché? Puis là, t'as un Lars Sullivan qui se pointe à Raw, où tu fais comme « Bon, OK, Lars va être à Raw. » Non, il est à SmackDown finalement, parce que c'est pointé à SmackDown aussi.
Fait que t'attends la confirmation, puis c'est ça, c'est deux jours après, quand là t'as la liste officielle, j'aime bon, ok, ils ont vraiment décidé que c'est ça qui arrivait. Et c'est niaiseux, tu fais une émission télé, ah ouais. Un Superstar Shake-Up, la moitié des noms ont pas été à l'écran, ou ont pas été mentionnés, ou ils ont pas eu d'histoire qui valent la peine. Ils ont brisé les groupes sans le mentionner, des équipes. Puis je me dis, ça sert à quoi de faire un Superstar Shake-Up, ouais, si tu fais pas un Superstar Shake-Up à l'écran? Je comprends juste pas l'intérêt. Donc, ça devient un Raw, un SmackDown régulier. Et on va se le dire, Raw était très ordinaire.
Oui.
SmackDown nous a donné de la bonne lutte. Mais on peut pas dire, en tant que partisan montréalais, qu'on a eu les deux soirées de l'année à deux semaines de WrestleMania. Non. On n'a pas été gâtés. C'était correct.
Moi, Raw, en l'écoutant à la télé, j'étais comme « Ah, OK, je suis content de ne pas être allé sur place parce que j'étais comme il me semble que c'est plate,
ben,
qu'il n'y a rien. » SmackDown, on a eu du fun. Est-ce que c'était juste parce que j'étais sur place puis que j'étais un peu chaud d'ail? C'est très possible.
À partir de quelle heure tu as commencé à te réchauffer? Si c'était à 8h15, tu as eu du fun tout le long. Si c'était à 9h30, tu as eu du fun au main event. Moi, je te dirais qu'à la maison, je l'écoutais et j'aime « Ouais, il se passe pas grand-chose. Hein, » Segment d'ouverture. C'était 10 minutes trop long après ça. Et, OK, ouais. Bigo, c'est drôle, mais le combat est plate pareil.
Ça a été un beau moment sur place. Ça, c'est ça. C'est le genre d'affaires que peut-être qu'à TV, ça sort plus ou moins bien, mais que sur place, KO était là, puis là, on
c'est le pop KO, exactement. Mais tout le reste, c'est comme, bon, fini là, mais j'étais pas mal sûr qu'il allait être là. C'est pas une très grosse surprise.
Quand le show a commencé, j'étais à une bière et demie déjà. Fait que ça veut dire ça veut dire 23$ de bière à peu près là.
Ben, il y a le petit kiosque avec les bières en bouteille à 8,50. T'es comme si tu joues bien tes cartes, là, tu peux t'en sortir au prix bar.
Ben,
faut que tu te lèves souvent.
T'as pas joué mes cartes comme faut.
Non, t'as pas joué tes cartes comme faut. T'as pris la grosse draft à 14$ puis.
Il passe juste à côté de nous autres. Là.
T'es un amateur.
Il m'apporte de la bière à mon siège. Qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Mais t'as juste ça à faire. T'as levé, il y a des pauses publicitaires puis des vidéos paquets. En plus, c'est tellement long.
Bon, justement, parlons là, des noms qui ont changé d'adresse. Bon, les deux plus gros noms, évidemment, les deux top face de chaque côté ont changé d'adresse. AJ Styles qui va faire le tour du côté de Raw. Ouais. Roman Reigns s'en vient à SmackDown. C'est pas un move surprenant. On veut, tu sais, établir SmackDown comme étant un gros brand avec le move à Fox, justement. Mm-hmm. Puis là, Roman va pouvoir être la tête d'affiche de tout ça.
Je suis content qu'il l'ait fait. J'avais peur au début qu'il change les champions de brand au lieu de changer Roman, justement pour préserver que Ross et Roman Reigns. Parce qu'il fallait que tu sépares Roman et Seth Rollins. Sinon, il fallait que tu les mettes en rivalité en dedans de 6 mois. Pis je pense qu'on voulait pas aller là. Donc, comment tu les sépares? Ben, envoyer Roman à SmackDown. Ouais. Je pense que c'est le bon move. Je pensais que c'est Braun qui allait faire le move avec le championnat. Mais non, carrément Roman Reigns à SmackDown. Puis, honnêtement, ça va lui faire du bien.
Ouais.
Nouveau beat, nouvelle rivalité. Peut-être aussi moins de pression parce qu'il y a une heure de moins de show. Donc, il y a peut-être des semaines où il n'y aura pas le segment obligatoire de Roman est cool, il vient battre des gens. Donc, je pense que pour l'aspect rythme télé, ça va nous faire du bien, ça.
Mais là, est-ce qu'il s'en va des pattes de Kofi tout de suite en partant pour gagner le titre?
Non, pas Kofi tout de suite, pas Kofi. Je pense que là, tu le fais arriver à SmackDown. Il n'y a pas énormément de gros méchants, mais tu peux le faire arriver doucement à SmackDown. Peut-être un Lars Sullivan dans un plus ou moins rapproché. Ou
moi, j'ai lu Elias qui était le premier. Dans les nouvelles, dans les changements d'adresse, justement, j'ai lu Elias. Puis que ce serait peut-être la première rivalité
pourquoi
de Roman à SmackDown.
Tant qu'à l'amener ensemble, tu fais un premier 2-3 mois avec ça. Kofi, il faut que tu le laisses justement là, s'établir, respirer. Il n'y a pas tant d'aspirants dans l'immédiat, par exemple. Ça reste à voir où ils vont aller avec ça. Moi, j'étais sûr qu'ils pullaient un KO heel turn directement. J'y crois pas à Kevin Owens en face. Ça rentre pas, ça compute pas.
Non, moi, je pense que ça marche. C'est juste que KO a tellement été un heel efficace que on attend toujours le turn.
Ben oui.
Pis, parce que c'est un peu ça son personnage.
Comme ça, ça a arrêté le temps. Le New Day est affaibli. pow, tu le fais, mais je comprends, tu veux l'établir comme un gros face, mais qui va rivaliser avec Kofi? Surtout qu'on va en parler tantôt, il n'y a plus de gros heel, puis il y a des blessures à SmackDown. Fait que c'est comme, OK, mais tu peux pas avoir un champion incontesté, sans aspirant. Donc, je suis curieux de voir, il y a Money in the Bank qui s'en vient. Ouais. Ça, c'est un autre truc qui m'a déçu. Autant au Raw après WrestleMania que dans le Superstar Shake-Up, ils n'ont rien installé à peu près. À part c'est Becky vrai. Contre Lacey Evans, il n'y a pas tant de rivalité qui avance. Puis Money in the Bank, là, c'est pas dans 6 mois, c'est non, même c'est pas 3 semaines. Donc, il faut que tu établisses déjà tes prochaines rivalités, mais là, il n'y a absolument rien. Fait que tu nous mets 2 semaines en suspens après WrestleMania. OK, bon, c'est le fun, c'est comme des émissions intemporelles. Mais des émissions intemporelles, j'ai eu 4 apparitions de Lars Sullivan, 22 de Lacey Evans. C'est pas des émissions intemporelles, j'appelle ça du remplissage. Puis t'es pas supposé d'avoir des émissions de remplissage tout de suite après WrestleMania, dans un shake-up. Puis shake-up, en plus, on m'a pas fait la liste. Y a pas tant de gros noms de NXT non plus. C'est peut-être ça qui était décevant. On a comme fait, ouais, on sont où le bang? Y a pas d'agent libre, y a pas de gros noms. Rey Mysterio, c'est plus un gros nom, c'est plus une surprise. Donc, à part Roman Reigns, puis AJ Styles, puis les championnats mineurs qui ont fait un versant aussi, il est où l'impact? Ça va redevenir la même poutine en dedans de 2 semaines. Ouais. On va retomber dans nos pantoufles. Est-ce que c'est le début de la saison morte dans mon cas pour la WWE? Ça pourrait que je sois moins attentif, moi, jusqu'à cet été. Là. Il y a rien là-dedans qui me fait dire « Cool! » Ça a renoué mon intérêt.
AJ, ça va faire du bien aussi de changer d'adresse, là, d'avoir les nouveaux match-up. Ouais. Même chose avec Finn Balor, qui l'a lui aussi passé du côté de SmackDown. The Miz, un gros morceau qu'on ramène à Raw. Ricochet, Black vont être à Raw aussi. Donc, tu sais, Raw a ramassé quand même des gros morceaux. Rumeur intéressante, Fox, dans les games de baseball cette semaine, runnait des promos pour SmackDown.
Déjà?
À l'automne. Avec principalement des images de Roman Reigns, de John Cena, de The Undertaker, puis de Rey Mysterio. Là, Rey Mysterio vient de passer à Raw. Fait que c'est-tu des plans qui ont changé ou ça c'était comme les gros noms qu'il leur avait promis, puis que là finalement, est-ce qu'il va se repasser autre chose avec Mysterio ou s'il a été tassé de ces plans-là?
Il y a des rumeurs que The Rock va peut-être être là au premier show pour kicker ça off comme
c'est la
faux,
même chose
là,
avec l'Undertaker. L'Undertaker a une relation très forte avec SmackDown à cause des années qu'il y a passé. Donc, on peut se permettre de jouer juste sur l'historique de Taker à SmackDown, puis qui se pointe une fois au premier, puis après ça qu'on leur voit plus le Raw. Je pense pas que Taker va être le weekly à SmackDown.
Non, puis même Cena, ça va être, il va venir faire à l'eau puis that's it.
Ouais, c'est ça.
C'est correct, c'est de la promo aussi. Là, veux pas, faut que tu le vendes cette émission là parce que pour nous ça a pas tant d'impact au Canada, mais c'est une grosse manœuvre parce que Fox. C'est pas un réseau câblé, c'est un réseau national. Donc, tu t'exposes à des centaines de millions de gens versus des dizaines de millions de gens. Donc, il y a un gros saut. Puis même si le vendredi soir n'est pas une case horaire aussi intéressante que le mardi soir, par exemple, au niveau du primetime television, ça se pourrait qu'il double ou qu'il triple l'auditoire juste avec ce changement-là. Donc, ça va... Comment dire? L'impact va être là, mais j'ai peur que là on a 6 mois avant ce temps, 6-4... qu'il se passe juste pas grand-chose.
C'est possible. Mais la game vient de changer.
La game vient de changer. Roman Reigns...
Pense l'Internet.
Roman Reigns va être champion de SmackDown probablement avant la fin de l'été. Là. Reste à voir comment ils vont se rendre jusque-là.
Ouais.
Mais il va ramasser cette ceinture-là plus tôt
que tard. Deux nouvelles acquisitions pour Raw. Eric et Ivar.
Ouais.
C'est qui ça, Eric et Ivar? Évidemment, personne ne connaît ces noms-là parce que Vince, apparemment, la journée du show, a décidé de repackager. War Machine avait été repackagé en War Raiders, parce qu'il y avait déjà Heavy Machinery.
Salut.
Puis là, The Viking Experience ont fait leur début à Raw.
C'est le pire nom du monde!
Apparemment, le nom allait être Berserkers jusqu'à quelques heures avant le début du show, où là, c'était comme, c'est pas assez clair, c'est pas assez évident, faut croire, puis...
Ils sont à ça de rentrer avec un chapeau à cornes puis une petite trompette.
Ben, c'est juste de souligner des. C'est de souligner des choses qui n'ont pas besoin d'être. Ok, c'était clair là, qu'il y avait une gimmick de...
Puis le changement de nom, really, là, Ivar, puis ils sont corrects, là, non? Ça fait 10 ans qu'on les connaît comme Manson puis Rowe, veux-tu bien quand même, mettons que tu les appelles les Vikings. Correct, fine. Pourquoi c'est pas Roll Viking? Qu'est-ce que ça change dans vos vies? Y a-tu besoin de s'appeler Ivar?
Non, puis c'est parce qu'en même temps, dans la tête de Vince, les carrières à l'extérieur de la WWE ont pas d'importance. Il voit c'est pas, pour lui, c'est pas payant, on dirait, de garder les mêmes noms avec qui ont été connus parce qu'il se dit, le monde les connaisse pas.
Mais d'un autre côté, c'était champion par équipe de NXT. Là. C'est pas comme s'il était pas dans ton écosystème déjà.
Sans les belts.
Sans les ceintures, sans le même nom. Mais la même musique. C'est la même gimmick. Là. Ils ont rien changé à part le nom. Fait que c'est comme... Les gens crient War.
Mais on va essayer de chanter Viking Experience.
Hey, hein? Ça va être le fun. Je les adore, le War Machine. Je vous les ai hypés dès qu'ils ont été signés. J'avais hâte de les voir. J'étais content de leur push à NXT. Ils m'ont détruit ma bulle. Ouais, quand j'ai vu le super de Viking Experience, je vais être... Hein? Why?
C'est un argument de plus dans l'optique, dans la façon de penser de NXT devrait vraiment réellement devenir une troisième brand, non pas une fédération de développement, parce que tout ce que Triple H fait à la NXT souvent est ruiné par Vince sur le main roster.
Non, la solution, c'est d'amener Vince en arrière de la chaise et de la cheville, là. Il est passé 72, 73 ans. Hunter a dit en entrevue récemment qu'il voit pas un jour où Vince prendra pas de décision. Fait que c'est quand qu'il va être sur son lit de mort que Vince va arrêter d'être à Raw SmackDown. Sans dire qu'on veut devancer tout ça. On va peut-être c'est ça, on peut pas être dans la position où on souhaite du malheur à quelqu'un, mais hey, là, ça fait longtemps que Vince McMahon n'est plus tant connecté que ça. Puis, il y a plein de bonnes démonstrations que la WWE est capable d'avoir des bonnes idées. Mais dès que Vince est plus hands-on sur un produit, ben, ça dérape. Je m'excuse, le Viking Experience, c'est bof. Là, tu sais, un petit retour des McMahon à Raw, Stephanie puis Shane étaient ensemble. C'est clairement du Vince, ça aussi. On va aller chercher du Heel Heat sur les McMahon pour lui-même prendre du Heel Heat pour introduire Roman Reigns à SmackDown. C'est comme... pas ça, l'avenir de la compagnie, c'est ailleurs, mais tu sais, ils font encore de l'argent comme de l'eau, ça va encore bien, les shows en Arabie, c'est comme un chèque en blanc. Tu sais, il n'y a pas de raison de changer parce que ses actionnaires sont contents, mais éventuellement, les actionnaires vont peut-être faire « Hey, t'as peur, ça marche plus cette affaire-là. » Peut-être que Fox va précipiter ça, mais pour l'instant, Vince, c'est un obstacle à l'avenir de l'organisation, même si c'est niaiseux de dire ça parce qu'ils sont super en santé financièrement, mais en tant que téléspectateur, moi, j'ai plus tant de fun que ça. C'est ça qui arrive.
Beaucoup de femmes aussi qui ont joué SmackDown. Bayley, Ember Moon, Kairi Sane, Liv Morgan, Mickie James. Donc, on booste la division féminine de SmackDown. C'est j'ai rien contre. Hein.
D'un autre côté, on la booste. On la regardera pas plus que d'habitude. La seule histoire qui a de l'amour, c'est Becky Lynch. Donc, Asuka a été championne de SmackDown pendant 3 mois dans l'anonymat quasiment le plus complet. Puis la star, ben, c'est une double championne. Fait qu'on roule la même histoire dans deux shows. Puis
là, Kairi Sane est montée. Fait que là, évidemment, on la monte en tag team. Puis là, évidemment, il y a deux japonaises. C'est sûr qu'ils sont amis.
Ah ouais,
c'est évident. Ils viennent de la même place. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'être dans la même équipe.
Ils sont pareils.
C'est sont pareils. C'est pas raciste.
j'ai vu la joke, je pense que c'est sur Reddit. The Anime Experience.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça.
Ah, ben écoute, on a des équipes de Noirs, on a des équipes d'Asiatiques, c'est ça.
Les couples ont été gardés ensemble. Naomi a switché avec les Usos. Les couples mariés, les vrais couples. Andrade vient avec Zelina. Zelinda s'en va à Raw rejoindre son nouveau mari, Aleister Black. Ouais. Donc ça, c'est bien.
Andrade perd sa blonde, par exemple.
Andrade perd Charlotte, mais en même temps, ça, c'est un nouveau couple. Je pense qu'au moins, on s'arrange pour que les couples établis, sérieux, puissent être sur les mêmes brands.
Un autre Raw avec la fille de Riot Squad, là, que j'oublie son nom, qui
vient
de
se marier.
Ils ont eu un mariage de viking, justement.
Oui, oui, oui.
Tout est dans tout.
Elle a l'expérience viking. Quelques splits d'équipe, par exemple. Bon, justement, Riot Squad, parce que là, Liv Morgan passe à SmackDown.
Ouais.
Ça, c'est triste, mais en même temps, ils faisaient rien avec le squad. C'est l'équipe Hill qui sont là pour perdre contre les gentils. Fait qu'anyway, même si on aime Ruby Riot, puis qu'on aimerait ça l'avoir être poussé, Est-ce que ça va arriver?
Je
sais pas.
Je pense pas qu'ils vont le faire, mais ça veut peut-être dire qu'ils ont des plans pour Liv Morgan, par peut-être. Contre, qui était la moins talentueuse dans le ring, mais côté charisme, côté personnage, je pense que c'est elle qui a fait la plus belle progression. Là. Ça fait 2 ans qu'on a le Riot Squad. Puis c'était beau de voir les filles sur les réseaux sociaux, les partager des vieilles photos.
Ils étaient très, très émus. Ces trois filles qui étaient comme vraiment très proches, qui ont vraiment bandé ensemble. Puis je trouve ça triste, moi, de voir être séparées. Contrairement à Rudy Gable, je pense que ça c'est un split qui fait du bien à tout le monde. Enlevons Bobby Roode dans le chemin de Chad Gable, parce que pour moi c'est ça là. S'il y a un futur dans ce duo là, c'est Gable qui l'a. Puis
ils ont même pas René Lang des splittés. Ils ont fait c'est assez là, ça a assez duré. Puis, on l'a pas vu à la télé ça, à moins que je me trompe là. Chad Gable, moi j'étais à Raw, j'ai jamais vu ça.
Non, ça a été annoncé je pense en graphique là ou peut-être même juste après.
C'est ça. Tout comme Eric Young est apparu sur un graphique, on n'a jamais eu de mention de la fin de Sanity à part dans le graphique.
C'est ça, parce que là, Sanity est effectivement splitté eux aussi, juste parce que Young est envoyé à Raw, puis les autres, on le sait, c'est un peu dans le néant. Là.
Ben Alexander Wolfe, ils ont parlé de NXT, puis il reste Killian Dane.
Killian
Dane
a fait un espèce de message un peu d'adieu au WWE Universe, mais le bruit qu'on entend, c'est qu'il s'en va pas. Fait que est-ce qu'on va le descendre à NXT, est-ce qu'il va aller jobber dans un des deux brands, on ne sait pas. On n'a pas vu Nikki Cross, aucune mention non plus dans les deux shows, on sait qu'ils sont ensemble.
Ouais. Est-ce qu'il va devenir The Pirate Experience?
Peut-être, tout ça peut.
On sait pas.
Tout ça peut avec Vince. donc c'est ça pour Sanity, c'est une triste fin, mais une fin qui était inévitable dans la manière qu'ils ont été traités sur le main roster.
Oui, c'est un gaspillage total et complet.
C'est ça, contrairement à ce qui est arrivé à NXT où ça avait fonctionné. Autre équipe qui a été splittée, puis ça c'est une plus grosse conversation parce que il s'est passé bien des affaires avec ces deux filles-là. Là, Bayley s'en va à SmackDown, donc c'est la fin du Boss and Hug Connection parce que Sasha Banks reste à Raw. Là, il y a du jus autour de tout ça. Parce que là, apparemment, à WrestleMania, les deux filles n'étaient pas contentes quand ils ont su qu'elles allaient perdre leur titre, qu'elles allaient être splittées. Parce que ça a l'air que c'était le plan des splittées avant la crise. Parce qu'il y a eu une crise, là. Apparemment, il y a eu du. Il y a eu presque littéralement de la crise de bacon, là, dans le vestiaire.
Je ne vais pas perdre mon titre.
Puis là, Sasha est pas contente. Sasha a parlé de quitter. Là, apparemment, on l'a un peu renvoyé à la maison, genre là, va penser à tes affaires avant de faire des moves que tu peux regretter.
Elle s'est fait renvoyer en punition chez eux. Bayley s'est fait envoyer à SmackDown et elle s'est fait huer par le public de Montréal. Elle était pas contente, ça a l'air. Ah oui? En coulisses, là, il y a des reports qui disent qu'on l'entendait crier puis comme flipper des tables. Là. Elle était pas contente du tout.
Elle était bien noire. Je sais pas, je l'ai vu, j'étais comme Evil Bayley.
T'as pas fait.
J'étais comme parfait, elle va faire un heel turn, elle va faire quelque chose, on va envoyer ce personnage-là ailleurs.
Ils vont peut-être travailler avec ça, par exemple. Là, ils n'ont rien fait visiblement. C'est encore la même Bayley que d'habitude en équipe avec Becky. Mais si ton objectif, c'est d'attaquer Becky Lynch, t'es pas la face de cette rivalité-là. Là. Ça arrivera pas aussi bien de prendre la balle au bon puis d'y aller. Pour Sasha Banks, on va-tu s'en ennuyer? Je l'aime beaucoup, Sasha, là, mais ça fait 2 ans qu'elle est pas un facteur. Là. Ça va pas bien, ses affaires. Puis probablement qu'elle se sent maltraitée. Elle a quand même une place. Elle se fait donner le titre par équipe comme un anan, elle se le fait enlever, elle a une rivalité un peu broche à foin avec Bayley. Ça se pourrait là, qu'elle ait juste plein son casse, mais les alternatives féminines sur la scène indépendante, on a beau dire qu'il y a eu une montée de la lutte féminine, c'est pas le même deal qu'un Dean Ambrose qui dit « Bon, qui c'est qui me donne un gros chèque? » Sasha Banks, c'est pas un gros chèque qui l'attend si elle s'en va de la WWE.
Ah, je sais pas, All Elite sûrement...
Elle est déjà sous-payée à la WWE. Elle fait partie de la braquette de femmes. Je pense que les salaires étaient sortis. Là. Elle était autour de 150 000 par année.
Pas plus que ça, okay.
Les top performers féminins, c'était Charlotte, Becky, Ronda. Tu sais, Ronda était beaucoup plus haute, mais Becky puis Charlotte, là, c'était du 400-500 000, alors que les mid-carter masculins gagnent ça. Puis des filles comme le Riot Squad et compagnie, on parle de 80 000 par année. Là.
Mais tu sais, on le sait, c'est pas compliqué. En plus, ce que Sasha a besoin, c'est de revenir à son vrai personnage de boss qui est heel généralement. T'sais, ça a toujours plus fonctionné. Quand elle a eu une petite histoire de 3 semaines avec Ronda Rousey, elle a pas eu le choix de jouer dans ces cordes-là. Puis Puis c'est toujours plus efficace pour elle. C'est là qu'elle est à l'aise. C'est là que son personnage fonctionne, je pense.
Ouais, puis en plus, tu sais, si mettons, elle décide de plus bouder, le chemin est ouvert à Ra. Ah oui. Lacey Evans va pas détrôner Becky Lynch. Mmh. Donc un coup que ça c'est fait, elle a le chemin ouvert pour aller en rivalité directe parce que Ra reste Natalia, reste Beth Phoenix si elle revient pour vrai, reste Tamina, Nia Jax est blessée. Il reste plus rien là, Ra, la division féminine est vidée, là, donc c'est à Sasha de la prendre. Là.
Là, apparemment, elle est bookée pour Money in the Bank. On sait juste pas si elle va être là, si elle va être revenue dans les histoires, si elle va se pointer.
Ils vont-tu la mettre dans le match d'échelle?
Je sais pas. T'as des reflux. Depuis tantôt, ouais. J'ai toujours peur que tu me pètes aux frettes pendant le show.
J'achève.
Tu veux-tu prendre une gorgée d'eau? T'es-tu correct?
Ça va. Je vais peut-être en prendre une tantôt.
C'est bon. Un autre qui est pas content, c'est Luke Harper, là, qui a annoncé cette semaine qu'il avait demandé son release de la WWE. Release qui sera pas nécessairement granté, mais il reste juste 6 mois à son contrat.
Ouais,
donc
quelque chose comme octobre, je pense. Tu vas peut-être l'envoyer à la maison, s'asseoir. C'est un drôle de move de le faire publiquement. Peut-être qu'il voulait avoir un peu de traction ou générer un buzz. Ouais. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Luke Harper. On l'a vu brièvement à Access. Il y a eu un petit combat contre des choses.
On l'a vu à WrestleMania. Il y a eu un.
Oui, c'est vrai.
Il était présent dans Battle Royale. Sur place, il y a eu un pop. Je sais pas comment ça sortait à TV.
Ouais, c'est vrai. Il y a eu son dernier chèque de WrestleMania. Puis je pense qu'on ne le reverra plus. Ça va être ça. Ils ont pas d'intérêt à le libérer. Ils ont rien à gagner à le faire. Fait qu'ils vont probablement juste l'envoyer à la maison, se pogner le bacon.
Il y a toujours la possibilité de friser son contrat parce qu'ils peuvent faire ça avec des lutteurs qui refusent de lutter. Fait qu'ils gèlent leur contrat. Fait qu'ils les payent, mais le contrat échoue pas. Sauf que là, rendu là, est-ce que tu veux payer quelqu'un juste pour pas qu'il ait lutté ailleurs? C'est peut-être beaucoup d'argent. Ce serait surprenant que ça arrive, mais... Tout ça pour dire que probablement que d'ici la fin de son contrat, on risque de ne pas le voir beaucoup.
Puis ça serait un mauvais move de relations publiques. Là, il revient de blessure en plus parce que tu pourrais réclamer les mois de blessure pour les rajouter à son contrat. Le rendu là, tu sais, comme laisse-le galer. Là.
Ils ont annoncé The Shield. On va voir leur dernier combat en house show. Ils vont le présenter sur le network.
Dimanche. Je pense pas que c'est la carte au complet. Ça a vraiment juste l'air d'être The Last Shield combat, Experience. Ouais. Probablement que ça sera même pas live. Je pense qu'ils vont le packager juste pour le passer sur le network. Parce que il me semble que le dimanche, il n'y a pas de house show de la WWE. Il me semble que c'est samedi. C'est vendredi-samedi. Parce que il me semble que les gars sont en congé le dimanche. Donc, peu importe. Ça va être sur le network.
Juste pour en parler, juste pour vous dire que ça existe, qu'il va avoir
ce dimanche. Ça va être fluffy, là. Sinon, il y a plein de petits noms, par exemple, qu'on n'a pas mentionnés.
Oui, si tu veux faire le tour des petits noms...
Il y a des petits noms, tu sais, comme dans ce qui est intéressant, qui pourrait avoir un petit impact. Andrade, on l'a dit vite, moi je suis content. Les Usos, on l'a dit vite, ça va faire du bien à Rod d'avoir une équipe solide.
À eux autres aussi, parce que ils sont bons les Usos, puis là, d'avoir d'autres gens dans les pattes.
Puis un Usos Revival, il y a du fun à avoir là-dedans.
Là, est-ce que The Bar est split? Parce que là, on a vu Cesaro à SmackDown avec l'entrée de The Bar.
Ils n'ont pas été mentionnés dans les noms. Fait que techniquement, The Bar est encore à SmackDown. Sont-ils à Raw à SmackDown? The Bar est à SmackDown. Parce qu'il est en rivalité avec les Usos puis New Day.
Ah oui, c'est ça. Okay. Fait que dans le fond, c'est juste qu'ils ont juste mis Cesaro dans le combat à 3 contre 3.
C'est ça. Ils ne sont pas split puis ils sont pas dans les noms.
Sur le coup, je pensais qu'ils avaient splitté, mais je suis comme...
Non, ça ferait du bien. Moi, j'ai hâte qu'ils le fassent, mais bon. De bord, c'est encore ça. Sinon, Buddy Murphy à SmackDown, j'ai hâte de voir ça.
Deux call-up de 205. Buddy Murphy s'en va à SmackDown. C'est ça?
Oui, Cedric Alexander.
Cedric Alexander à Ross.
Tu vois les reflux, c'est une petite corrida.
C'était juste un rot.
Puis, tu sais, en plus, lui, ils ont donné un vidéo package. Il peut remercier sa bonne étoile, contrairement à d'autres qui n'ont rien eu. Il a même eu une mini promo. Fait qu'il s'en vient pour nous rappeler qu'on le connaît pas parce qu'il était à 205, je sais pas quoi.
C'est ça.
Donc, c'est une bonne façon de le jouer, par exemple. C'est vrai qu'on le sait pas si qui se fait. Il a été quasiment champion un an en donnant des gros combats, mais dans les pre-shows, dans les cartes que personne regarde. Puis, Bidley, comme ça, il y a eu un petit pop aussi à NXT. Il est allé affronter Velvet Dream. Donc, tu sais, ramène-les à la map, puis il va bien paraître. Il est plus gros qu'Ali. Tu sais, il arrive pas là comme étant le nain de service. Puis, Ali a eu un gros combat contre Finn Balor. Il a eu une semblant de présence dans le portrait pour le championnat mondial. Donc, Buddy Murphy, là, tu peux l'insérer direct là-dedans. Il est dans l'aligné pour aller affronter Finn Balor ou sinon être dans le lower mid-card comme méchant. Moi, je suis curieux. de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Il a montré qu'il est capable de faire beaucoup, parce qu'à NXT, c'était pas prometteur. Là, on était comme, bah, c'est une équipe plate. Puis finalement, il a tiré son épingle du jeu. Donc, tant mieux pour lui. Là, c'est la promotion. Là.
Et bien, il y a Heavy Machinery qui passe à SmackDown.
Ouais, c'est vrai.
Otis et Tucker. Eux autres, on va se dire les vraies affaires. Tu sais, à la TV, dans les histoires, il y a pas de potentiel là. Mais ces gars-là vont avoir des jobs safe avec la WWE pendant longtemps parce que ils ont lutté sur le pre-show à SmackDown en dark match mardi.
Ouais, à Raw aussi, il était là.
Il était là aussi.
Il a affronté le B-Team, ça a levé.
Puis il était over. Le monde réagisse. Le monde embarque dans le act. Le monde a du fun.
Ouais, ouais. Le word de Otis, il est le fun.
Fait que eux autres, ils ont des jobs steady pour moi pour un bout. On va les voir à Main Event une fois de temps en temps SmackDown. Puis
c'est comme B-Team, là. On trouve ça plate de pas les voir, mais c'est une belle job safe. Puis tu sais, il était là à Rush justement contre TV Machinery. Le monde a réagi. Il chantait le petit tune. Là. Je l'avais jamais entendu, ce tune-là, d'ailleurs. B-Team, ouais, je sais pas quoi. Là. Puis je suis comme, regarde, ça pogne en live. Probablement que des enfants dans un house show vont embarquer beaucoup là-dedans. Otis, là, tu le vois pour la première fois, puis t'es comme, que c'est ça? C'est bien drôle. Mais ben, tu sais, pas besoin de le voir à la télé. Lars
Sullivan, SmackDown,
avec ça, moi.
Non?
Là, j'ai eu la crainte en le regardant. J'ai écouté Meltzer après ça, son émission de radio, puis il a l'air d'avoir la même crainte, puis d'avoir entendu les mêmes échos. Ils vont la jouer, la carte qui fait peur aux femmes. Tu sais, il est arrivé dans son intervention, puis c'était qui était dans le ring? C'était Mysterio, puis... en tout cas,
c'est R-Truth puis Carmella.
Oui, c'est ça, c'est R-Truth puis Carmella. Puis l'angle que Carmella avait peur, puis l'espèce de menace qui va la maltraiter, là. Puis comme dans le temps avec Kane, puis ces angles bizarres-là, ou l'autre, Snitsky qui bottait un bébé, puis ça fait la même, là. Ça a l'air qu'ils vont la jouer, cette carte-là, du gros monstre qui fait peur aux femmes. Puis je suis comme, oh God. Pas encore. Tu sais, quand je disais d'amener Vince en arrière de la chaîne, là,
c'est
en haut de la liste. Là. Arrête d'aller là, c'est niaiseux. Puis moi, Lars Sullivan, j'embarque pas. Là. Il est bien gros, il est bien dominant, puis tout. Mais là, ça fait quatre fois qu'il vient faire des powerbombs à du monde, puis je suis comme, hey, c'est le fun. Pouvez-vous faire d'autres choses?
Lars Sullivan, moi, il est jamais venu me chercher, même à NXT. Ben, quand ils l'ont callé up, moi, ma réaction, c'était, bon, fine, prenez-le, Lars Sullivan, puis laissez-moi les noms qu'on aime pour vrai à NXT, tu sais. Parce que là, c'est rendu ça, là, on vit avec la peur de quand est-ce qu'on va se faire enlever le nanan de NXT pour l'envoyer être gâché sur le... Tu sais, je veux dire, le call-up de Gargano à 205, là, ça va arriver, puis ça va être, va mourir en dedans quand ça va arriver, là, tu sais.
Ce qui risque de sauver Cole, c'est que ça a l'air que Vince l'aime beaucoup.
Ben,
il voit du potentiel en Cole.
Il est hyper over. Pis,
il vend des t-shirts, pis tout ça, pis tout ça. Mais, pis tu sais, il y a des bons exemples. Un qu'on n'a pas parlé.
Mais les gars d'Undisputed n'ont pas de futur, eux autres, malheureusement.
Qu'est-ce
à moins qu'ils décident de démonter vraiment avec Cole, pis pendant un petit bout de runner Undisputed Era sur le main roster, là.
Eux autres ont aucun avenir,
c'est plate, là, mais. O'Reilly, pis.
Fish
ont peut-être un futur dans la division par équipe. Ils ont lutté en équipe pendant longtemps.
Un gros peut-être. Là.
Ben, Roderick Strong, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec eux autres. Roderick Strong a toujours été quelqu'un de bland, à mon avis, à moi. Puis, Undisputed Era l'a sauvé. Ça l'a rendu intéressant d'être dans cette faction-là qui était vraiment ça, très hot. Si tu le ramènes en single, en tout cas.
Sa première run NXT, c'était ça. Là, comme, on l'a pris du indie, puis il fait ce que tu faisais ailleurs, puis c'était ça. Là, il faisait des backbreakers.
C'est ça, on essayait de le vendre comme justement Monsieur Indie, là, Monsieur ROH, Monsieur qui a lutté dans une petite place depuis des années, mais c'était pas assez pour créer un lien fort avec lui, puis c'est Undisputed Era qui l'a.
T'as l'effet du clan, t'sais, Cole va peut-être être sauvé de ça. Un que ça a bien été, qu'on n'a pas parlé pendant tout, c'est Samoa Joe, lui, il s'en va à Raw.
Ouais.
Parce que ça n'a pas été à TV pendant tout. Il
est malade. Ouais, c'est ça.
Fait que le championnat US est à Raw, là, fait que il n'y aura pas un débalancement, là, IC US à SmackDown, puis pas de championnat à Raw.
Finn a amené l'Intercontinental à SmackDown. Joe amène la ceinture des États-Unis à Raw.
Je suis content pour Joe.
Oui. Bon, ça va faire du bien. Là, apparemment, on parle d'une rivalité avec Braun Strowman en commençant. Fait que.
Why not,
mais en même temps, si tu pour donner directement la belle à Braun, tu sais. Parce que Braun n'a jamais eu de titre à part. par équipe avec Nicholas.
C'est pas arrivé, ça. Mais Braun a tellement ralenti. Là. Écoute, hey, son gros pop à Raw, c'était de détruire EC3, qui est rendu à Raw, by the way, si ça vous intéresse.
Nobody cares.
Donc, non, j'y crois plus à Braun. Moi, c'est, la balloune est complètement dessoulée. C'est rendu un moment de Raw pour faire plaisir aux enfants. Que le meilleur bout de Braun à Raw à Montréal, c'était le petit gars qui l'imitait pour gagner un T-shirt pendant le concours entre les pauses, là, qui a crié « Braun! » Puis c'est ça. C'est le meilleur moment de Braun à Raw. Donc, il est rendu ça. Ce qui est correct dans l'écosystème actuel, mais c'est plus le prochain champion du monde qui va tout péter.
Non,
là. C'est rendu juste une grosse affaire qui fait du bruit, puis du PR, puis du poil.
Absent de Marc mardi, en fait, depuis WrestleMania, Daniel Bryan était pas là, parce que là, Daniel Bryan est blessé. C'est blessé à WrestleMania, et là, apparemment, on essaye de garder tout ça vraiment là, caché under wraps, là, vraiment, on veut pas que ça sorte. Ce qui est pas bon signe.
Non, c'est pas bon signe. Ça, c'est, il s'est blessé pendant le combat avec Kofi, donc c'est pas un truc qui traînait selon ce qu'on a entendu, mais on sait pas c'est quoi. C'est-tu le cou, c'est-tu le dos, c'est-tu un genou, c'est-tu le retour des commotions? Évidemment qu'on est inquiet avec Bryan. Ça fait un an qu'il est revenu, grosso modo, qu'il n'a pas eu de problème de commotion, mais ça reste qu'il est sorti de sa retraite qu'il n'était pas supposé de revenir. Fait que là, si le doc lève un drapeau rouge puis il dit « Ouais, peut-être que tu l'auras peut-être pas le go », moi, je t'inquiète. Personnellement, ça aurait été n'importe qui d'autre. Genre, Randy Orton, je fais « Bah, il s'est busté une épaule, puis on le perd 6 mois. » Mais vu que c'est Daniel Bryan, je comme « Ah, s'il n'en parle pas, c'est peut-être parce que c'est des commotions, puis ils veulent être sûrs d'avoir une idée claire avant de dire « OK, c'est une absence courte, moyenne ou définitive. » Donc, ça serait vraiment plate. Il est tellement bon en méchant, en plus. Là. Quand il a réussi à se faire haïr alors que tu reviens d'une retraite, c'est comme Sami Zayn qui a réussi à se faire huer à Montréal. Là. T'es comme, ça prend un talent pour faire ça. D'ailleurs, Sami, c'est le MVP du shake-up. Là. Il a eu une promo de fou. Pour te faire flipper à Montréal, c'est que t'as quelque chose. Là.
Apparemment, la promo originale, celle de la semaine dernière, ne lui a pas été écrite. Ça a été
c'est ça que j'ai vu, moi aussi.
C'est Mark Henry qui apparemment a parlé de ça sur un podcast. Okay. Qui, fait que c'est-tu fiable? En même temps, il est à l'interne. On sait pas, là, mais on entend qu'ils ont vraiment donné le ballon à Sami. Tu sais, t'es méchant, tu peux faire la promo que tu veux, puis que c'est lui qui a amené ça dans cette direction-là. On le sent que qui veut pousser, qu'il le
pilote.
Puis c'était bien fait à Raw lundi. Là, on a joué avec la foule, on a fait réagir. On a comme brûlé l'énergie positive de la foule en rejoignant la toune. Puis là, Sami qui jouait aussi avec la foule. Puis là, après ça, ben on coupe ça en faisant comme j'haïs Montréal, puis je vous haïs toutes.
Ouais, c'est un truc que j'ai pas revérifié à la télé. Sont-tu allés en pause pendant ce segment-là? Non. Genre, tu sais, Alexa parle, Sami rentre, puis il repart en tournée comme 3-4 fois.
Non, c'était live, tout ça.
Tout ça live. Oui. Parce qu'à un moment donné, je me demandais, c'était-tu juste un « OK, il y a une pause, puis ils veulent nous vider un peu plus? »
Non.
Parce que c'était vraiment comme « Wow, wow! » Puis
non,
c'était
cool. Non, ils l'ont montré, ils ont joué avec tout
ça. Tant mieux. Parce que le « fish in a barrel ». Puis c'est ça, il l'a bien flippé, puis là, il le fait sur Twitter en plus. Fait que là, c'est clairement là qu'il s'en va. Au States, il va être hué out of the building. T'sais, même à Montréal, oui, il se faisait huer, mais là, c'est parce que le monde a compris. Ah, OK, il est méchant, faut embarquer, mais personne voulait huer Sami vraiment à Montréal. Puis, tu sais, il l'a dit à une entrevue d'un autre réseau que je peux pas nommer, que ça lui a fait du bien, sa blessure, parce qu'elle était prévue. T'sais, c'était pas une blessure soudaine. Il savait que ses épaules étaient scrap.
Qu'il avait besoin
de passer sous le couteau puis de prendre ça. Fait qu'il a pu les planifier un peu. Fait qu'il s'était planifié, tu sais, des voyages, un temps de repos, un temps de recul. Puis, ceux qui le savent, qu'ils suivaient, vous savez qu'il est venu à Montréal souvent. Il est venu faire de l'impro, il est venu faire de la comédie. Fait que tu vois qu'il... Il a travaillé des affaires pendant qu'il était parti, puis ça paraît. Il a l'air bien, tu sais. Dans le ring, il est un peu rouillé, mais ça, c'est correct, ça va y aller. Mais au micro et tout ça, c'est pas le même Sami. Il a un swag qui est différent. Puis, écoute, c'était le MVP du shake-up, puis j'ai l'impression que ça va être mon point de ralliement des prochaines semaines. Parce que, comme je disais tantôt, moi, KO en face, on dirait que j'attends juste que l'autre soulier tombe. Mais on dirait que c'est vraiment juste un état en attendant, puis j'embarque pas tant que ça, même avec le stunner, même avec son... Tu sais, ça paraît qu'il y a du fun, mais ça marche pas. À mon avis, c'est pas permanent. Tandis que Sami, elle pourrait être la ligne directrice vers quelque chose de le fun.
Je me rappelle plus si KO en face, On en a parlé au début de l'émission ou si on en a parlé hors d'onde, parce qu'on a attendu 45 minutes après Timothée Fournier pour pouvoir enregistrer. Fait que là, je me rappelle plus, mais je pense que c'était hors d'onde.
On en a parlé en onde du Big O, là.
Non, ça, c'était hors d'onde. En tout cas, en gros, moi, j'ai pas de problème avec ça. Je trouve ça le fun.
Vous le direz. On l'a-tu dit tantôt?
On se
l'autre tantôt?
Je suis sûr.
Bref, on est sceptique.
Je veux qu'on aille faire un tour du côté de la ROH parce que là, ils s'en viennent à Toronto au mois de mai. Puis là, ils viennent d'annoncer... il y a un nouveau champion, Matt Taven. Oui. Puis ils viennent d'annoncer qui va l'affronter à Toronto. Et c'est nul autre que l'homme qui n'est pas humain, PCO.
Le zombie de la ROH.
Qui est en feu, là, qui est sur une streak assez spectaculaire là, depuis quelques mois.
Écoute, ils l'ont clairement pas signé pour faire du remplissage avec. Là. Depuis qu'il est à ROH, il a gagné deux ceintures. Il en a perdu une des deux. Puis là, il y a une chance au championnat du monde.
Ça va?
Avec mes reflux.
OK. Fait que ouais, non, c'est ça. Fait que ça va être intéressant. Puis il manquait pas non plus à partir de dimanche puis la semaine prochaine, là, nouvelle émission de la lutte à RDS. On vous présente justement deux combats de ouais. PCO dans les derniers mois. Combat de championnat par équipe et de championnat par équipe duo de trois. Comment six. Vous l'appelez de 3 de 6, c'est ça?
Parce que puis préparez-vous tout de suite là, le championnat par équipe contre les Briscoes. C'est sanglant.
C'est un petit peu violent.
C'est pour un public averti.
On va mettre les petits avertissements, puis on va laisser les gens...
C'est cool pour PCO, tu sais, à Madison Square Garden, ouais. Il y a eu la plus grosse entrée dans les quatre équipes. Ils ont fait une entrée spéciale pour lui avec sa chaise de Frankenstein. Ils l'ont laissé amener Destro pour la première fois à la ROH. Là, il y a le title shot à Toronto pour le War of the World. Ça va être une des premières défenses de Taven, si c'est pas la première. Ils ont roulé un angle là-dessus. Ça a l'air que les gars du Kingdom ont fait un podcast cette semaine. Ils ont mis over PCO. Okay. Il y a vraiment un consensus à la ROH que, OK, c'est une run de PCO. C'est pas une run jusqu'à un championnat du monde, mais une run où on va le voir beaucoup, où on met over ses cascades, puis PCO, do something crazy.
Ouais, c'est ça.
C'est la ligne de Brody. Puis, tu sais ça, là, on a impliqué Destro. Tout de suite après l'annonce du combat, il y avait déjà une nouvelle vignette avec Destro à l'entraînement où il se fait rouler dessus par un char. Ouais. Le gars, il a compris que ça marche bien. Fait qu'il jongle avec toutes les balles en même temps. On lui souhaite vraiment juste que ça fonctionne longtemps. Moi, j'ai peur qu'il se tue un peu parce que son powerbomb qu'il a pris des Guerrillas of Destiny là, pendant le spectacle à Madison Square Garden, c'est pas tout le monde qui le prend.
C'est juste pitché sur le dos de six pieds dans les airs.
C'est comme, faites-moi les gars, je vais le prendre puis on gérera après ce qui arrive. C'est un peu sa mentalité de... Mal faire, puis on verra ce qui arrive.
C'est pas brillant, là, comme move.
Non,
là.
C'est, mais, de l'autre côté, il est à 51 ans. Il sait qu'il n'y en a pas 15 en avant de lui. Il y en a une, deux, peut-être ouais. trois. Fait qu'il donne tout. Puis Toronto, c'est un jeudi, le 6 mai de mémoire, quelque chose comme ça. Puis vu que
c'est
War.
C'est une belle date.
Belle date, hein. C'est le 8, toi, ta fête, c'est pas le 6, 8? Non, c'est le 6. Bon, tu veux, ça va être ta fête à Toronto.
Pas de ma fête, faux frère.
Hey, j'oublie tout le temps, c'est quoi la journée de la mienne?
C'est le 19 avril, c'est demain.
J'ai essayé de t'affier, ça va pas marcher. Mais non, c'est ça, fait que Toronto, un jeudi, mais là, c'est War of the World, ils l'ont pas confirmé, ça se peut qu'il y ait de la New Japan aussi, d'habitude, okay. War of the World, c'est les deux, mais pour l'instant, c'est rien de mis à jour. Fait que ça ressemble à ça, le portrait de la ROH, ouais. C'est comme, ils ont perdu plein de joueurs, mais on va pousser all-in sur PCO. Je peux pas dire j'haïs ça, hein. C'est notre boy.
Puis là, ça va être intéressant de suivre parce que là, le championnat du monde, justement, qu'on a mis dans les autour de la taille de Matt Taven, nous autres, ça nous a surpris. On s'attendait à ce qu'on donne peut-être la ceinture à Skrull ouais. dans le but d'essayer de le garder à la ROH. Lui, son contrat run, je pense, jusqu'à la fin de l'été.
Ouais, ça a l'air que c'est la fin de l'année.
On pensait que c'était plus
là.
Bientôt, mais finalement, ça sera peut-être un petit peu plus loin qu'on pensait. Puis on s'imaginait qu'on allait peut-être essayer de tenter de le convaincre de rester du côté de la ROH au lieu d'aller retrouver ses ouais. amis.
Parce
pardon, à l'All Elite.
Ils s'installent. L'All Elite commence à sortir les combats de leur deuxième show
ouais.
cet été.
Les billets ont été mis en temps en vente.
Puis hey, d'ailleurs, c'est vrai, on l'a pas fait un shout-out officiel. Nos boys de Super Smash Bros.
Oui.
Ils s'en vont du côté d'All Elite, mais c'est pas un contrat exclusif.
Evolution Stu Grayson ouais. qui vont faire partie de la division par équipe de All Elite. Les Young Bucks les ont mis over ouais, en disant qu'ils étaient une des équipes
cool.
les plus hauts.
Ils ont eu des problèmes de visa en plus. C'est pour ça qu'ils n'allaient pas vraiment aux States. Ils venaient juste à la ROH quand ils étaient au Canada. Donc là, on traverse les lignes. Leur booking aux States vont être avec All Elite. Mais on m'a confirmé que Uno gardait son école de keep dans le bout de Gatineau. Okay. Donc, on va continuer de rouler les shows de lutte 07. Donc, je présume que Stu aussi là, va lutter
moi,
encore.
Moi, c'est ça. Moi, je suis pas énormément familier avec Stu. Evil Uno, par exemple, je l'adore. Ouais. C'est un bon lutteur, un très bon lutteur pour le gabarit qu'il y a.
Côté storytelling, Uno, c'est un des meilleurs au Québec. Là. Il a compris la game. T'sais, il n'y a pas,
puis c'est un
il a
gars
pas
super
de shape
cool
de
en
feu
plus,
pis tout, mais c'est ça. T'sais, il va pas te wowé avec un 4,50 du haut d'une échelle au travers trois tables
de feu. Non,
mais
il fait des affaires de quand même impressionnant pour un gars de sa carrure. T'sais, c'est pas...
Non, c'est ça. Puis son storytelling, c'est Stu qui fait les spots souvent dans Super Smash Bros. Okay. Si vous l'avez vu aller, Stu Grayson était champion de la FLQ pendant comme 2 ans. Sinon, il lutte pas mal du côté de l'Ontario avec Smash, avec la C4. Il sort tout le temps un gros backflip ou une grosse démonstration de force qui est vraiment out of this world en shape, là, Stu Grayson. Ouais. Fait qu'il va pogner. Honnêtement, c'est des deux, moi je pense que c'est Stu qui va pogner le plus. Même si j'ai tendance à avoir plus de fun à regarder Evil Uno parce qu'il me raconte une meilleure histoire. Mais tu sais, Stu a le prototype. Tu sais, c'est genre, tu penses à un lutteur, c'est la shape de Stu Grayson qui te vient en tête. Fait que s'il y a un bel exposure avec All Elite puis le droit de lutter aux States, je pense que ça pourrait y ouvrir des belles portes. Puis même Uno, tu sais, je pense pas que ça va y enfermer non plus, là, mais il y a du star potential à Stu Grayson, alors que Uno, je l'ai toujours vu comme plus un joueur de soutien, mais un très bon joueur de soutien. Tu sais, ça t'en prend un, là. Référence de hockey, là, tu sais, ton centre de troisième trio, là, ça va être Evil Uno, tandis que Grayson, c'est ton ami. Hey, j'écoute ton jazz de tous les jours depuis 3 ans. Je suis un expert de hockey, tu sauras.
On salue Martin Lemay. Puis, c'est ça. Puis, d'ailleurs, Evil Uno, on vous le présente dans le prochain épisode de la lutte à RDS, un affrontement avec Darby Allin, qui est un lutteur extrêmement talentueux sur la scène indépendante. Fait que manquez pas ça. Last Man Standing aussi entre Kevin Blanchard puis
dans le fond, on commence les combats du MTLUS. Là. Si vous n'êtes pas présent au MTLUS...
Fucking Tension, ça a été toute une soirée. On commence à vous présenter ça dès cette semaine.
OK, oui. Fait que ça ressemble à ça, le portrait de la ROH. Le portrait de All Elite. AWS donne un show à la fin du mois. On va en reparler la semaine prochaine parce que je me souviens plus c'est quoi que tu. Il y a LAX puis d'autres personnes.
Puis demain, t'as 35 ans.
Si je survis jusque-là. C'est pas fait, ça, encore.
C'est pas fait, effectivement. On va prendre
il me reste 12 heures pour raviser tout ça, mais ouais, demain, j'ai 35 ans. Qu'est-ce que tu veux? C'est de même.
Puis Bourrasque, il fait sa vedette puis il veut pas nous faire 2 minutes culturelles, mais t'as-tu...
Attends, tu peux, check.
Ah, les pattes, ils bougent. Cool. C'est-tu merveilleux? On n'avait pas ça quand
j'étais... Il est déjà plus divertissant que Mathieu.
J'irais pas jusque-là.
Minute culturelle, non? Ouais, c'est tranquille. Moi, j'avais le
premier, premier épisode de Game of Thrones dimanche passé. Sans donner de spoiler.
C'est pas ça que vous en parlez.
C'était, écoutez Game of Thrones. Écoutez-le, là. C'était un épisode, tu sais, slow côté histoire, mais rempli de callback. Non seulement en première saison, mais au premier épisode. Beaucoup de scènes qui sont miroirs au premier épisode de la série.
Présenter les personnages à Winterfell. C'est exactement le même pattern, mais c'est quoi, à peu près 5-6 ans plus tard, en temps de Game of Thrones, dans l'histoire du récit. Non, pour dire que c'était bon, c'était pas mal.
Puis le Bran Stair qui va devenir un meme probablement pour les années à venir.
C'est un petit Chris hein, quand même, Bran. T'as comme le goût de l'étriper un peu.
En même temps, on s'entend que c'est extrêmement pratique comme outil narratif d'avoir un personnage qui est capable de tout voir et de tout savoir.
C'est ça. Tu peux pas vous surprendre. Je l'ai déjà vu. Puis même si ça fait 500 ans, je suis au courant.
Je suis au courant de tout. Tu m'en parles, là, t'as peu, je vais aller voir.
Non, c'est ça. Okay.
C'est pratique.
Côté minuscule, on vit la dernière stretch de Game of Thrones, donc on a un beau mois et demi. Moi, sinon, j'avais envie de... je l'ai fait sur le journal Métro, mais je veux le repluguer. Là. Abonnez-vous au Criterion Channel, comme tout de suite. Là. Il y a une période d'essai en plus, puis vous allez écouter du bon cinéma. Puis sinon, je pense que mon plan de longue fin de semaine de Pâques, c'était de hate watcher show de Gad Elmaleh sur Netflix.
Ça m'a surpris quand j'ai vu ça. J'ai comme fait, quel drôle de timing!
Mais il n'y a pas de publicité pantoute. Ils l'ont sorti, puis c'est comme... Quasiment genre, on l'a fait.
On tourne ça depuis un an, puis là, on est pogné avec.
C'est ça.
Puis
c'est vraiment une espèce de cette fausse docu-série sur la vie de Gad Elmaleh aux États-Unis, où il y a de la misère à se faire connaître. Fait que, un peu comme Mark Maron a fait avec IFC. Ouais. T'sais, vraiment un show de lui fictif. Puis j'ai pas envie de voir ça, mais j'ai vraiment envie de voir ça en même temps. Fait que ça se pourrait que je hate-watch Gad Elmaleh en fin de semaine.
Ben, c'est un bon plan de week-end. Sinon, en fin de semaine, ben, manquez pas, comme on disait dimanche, premier nouveau nouvel épisode de la lutte à RDS. Puis on salue Mathieu. Et Bourrasque, merci d'avoir pris sa place cette semaine. Merci à Tim Fournier, même s'il nous a fait attendre. Puis on donne rendez-vous à tout le monde la semaine prochaine pour un prochain épisode du Petit Paquet. Merci Stéphane.
Bye bye.
Ciao.